Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, les villes refuges.
Alors, nous allons ce matin ouvrir notre Bible et puis nous allons prendre deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Josué. Livre de Josué, au chapitre 20, nous allons faire la lecture de ce petit paragraphe. Enfin, c'est un petit chapitre, hein, disons-nous. Et nous nous reporterons ensuite dans le livre des Hébreux. Alors, on commence par Josué, chapitre 20. Un message d'exhortation, un message d'encouragement, et on en a besoin. Je pense que la parole de Dieu est pleine justement de ces paroles, hein, et ça correspond souvent à nos états de vie, nos états d'âme, nos états d'esprit. Parfois nous rencontrons des situations difficiles et nous avons besoin d'une parole. Alors je suppose que vous et moi, nous avons demandé que le Seigneur nous parle cette semaine, hein. C'est un souci permanent en disant « Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai besoin d'entendre ta parole, j'ai besoin de vraiment quelque chose qui me fasse du bien et qui me fasse repartir. » Alors on va essayer d'approcher la réponse du Seigneur. Donc, Josué 20, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Une deuxième lecture dans Hébreux, chapitre 6. C'est tout simplement la complémentarité de ce que nous avons lu il y a un instant. Hébreux, chapitre 6, verset 18. « Afin que, par deux choses immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Je retiens cette parole. Il nous est dit que Il est impossible que Dieu mente, et nous le savons pertinemment. Afin que nous trouvions un puissant encouragement, que nous puissions être finalement fortifiés, trouver la force nécessaire, parce que notre seul refuge, et vous avez remarqué dans notre lecture précédente, il était question de refuge, et particulièrement, et nous allons nous en expliquer, de ville de refuge, le seul refuge a été de saisir cette espérance qui nous est proposée et nous la possédons comme une encre de la foi. Vous savez que l'encre, c'est un instrument, je ne sais pas si on peut dire cela, c'est pour fixer un bateau. Hein. Le maître, finalement, est bien là, dans la stabilité, hein, qu'il ne soit pas emporté de droite et de gauche. Je n'ai pas une grande connaissance de la marine, mais bon, quelques rudiments toujours. Alors, je pense que cette encre, eh bien, nous l'avons dans notre cœur, et c'est la parole de Dieu qui va nous donner justement tous les éléments pour que nous ne soyons pas emportés de droite et de gauche. Vous savez, le sentiment, c'est quelque chose de très difficile à maîtriser. Hein. Nous sommes percutés par toutes sortes d'événements tous les jours de notre vie. Et puis, il y a parfois, comme sur l'océan, il y a des vagues. Hein. Et quelquefois, des vagues furieuses, des vagues qui nous dépassent. Et nous avons tendance peut-être à perdre notre stabilité. Et justement, eh bien, c'est précisément pour cela que nous ouvrons ce texte et nous allons le méditer pour trouver véritablement eh bien, une encre et un refuge dans lequel eh bien, nous n'allons plus aller de droite et de gauche, nous n'allons plus aller dans un sens ou dans un autre. Je voudrais lire en préambule, et nous allons revenir maintenant dans le livre de Josué. Vous en souviendrez qu'à leur sortie de la captivité d'Égypte, les Hébreux ont fait l'apprentissage ou devaient tout apprendre de la nouvelle vie à laquelle Dieu les destinait. C'était à ce moment-là, ils devaient rentrer dans une dimension d'une vie nationale, parce qu'ils étaient esclaves pendant très très longtemps, et ils avaient toujours été en quelque sorte un petit peu comme le rebut de l'humanité pour les Égyptiens, et ils n'avaient aucune notion de ce que pouvait être une nation, un peuple, retrouver son identité, trouver son identité, faire une identité de peuple. Alors ils devaient rentrer dans cette dimension d'une société libre et civilisée. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du Maghreb actuellement, à travers toutes sortes de facteurs. Et c'est vrai qu'il faut se frayer un chemin à travers tout cela. Et qu'est-ce que c'est que la liberté et de pouvoir vivre en société. Sur le plan politique, ils devaient apprendre. Sur le plan social, sur le plan religieux, naturellement. On sait ce que Moïse a pu leur dire de la part de Dieu. Et ils devaient apprendre dans tout cela quelque chose de fondamental et d'essentiel. C'était une justice égalitaire, oui, où il n'y avait pas de parti pris, où il n'y avait pas là, eh bien, toutes sortes de choses qui blessent finalement l'équité. Et ça, c'était un principe que Dieu voulait leur inculquer, parce que Dieu est un Dieu juste. Et c'est une des premières leçons qu'ils ont apprises. Et entre autres, Dieu avait instauré pour ce faire, eh bien, ce que l'on a appelé, ce que l'on a lu, des villes de refuge. Des villes de refuge qui étaient destinées dans un but particulier que nous allons développer d'ici quelques instants. Et ces villes, eh bien, permettaient finalement de mettre sous couvert, de mettre à l'abri, de mettre en protection les hommes dans certaines situations particulières. Vous savez, aujourd'hui, on parle de villes de refuge, avec ce qui se passe au Japon. On nous a dit que là, les habitants de Tokyo sont allés dans le sud, entre autres à Osaka. Et puis, dans la guerre qui sévit actuellement en Libye, eh bien, il y a une ville dont on parle souvent comme une ville de refuge, chez Benghazi. Alors, on verra l'issue de tout cela, mais toujours est-il que c'est une notion que les hommes ont. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est grave, quelque chose qui est, en effet, crucial dans la vie d'une nation, d'un peuple ou d'un homme, on cherche un refuge. Et ça, c'est important. Et les villes de refuge qui ont été instituées par Dieu avaient un but précis, elles étaient destinées à celui qui était meurtrier, mais involontairement. Il était, on pourrait dire, dans les termes juridiques aujourd'hui, on pourrait peut-être parler tout simplement d'un homicide involontaire. Alors, Dieu avait prévu cela. Il avait prévu donc la chose de cette manière, c'est-à-dire que celui qui avait tué par accident, par inadvertance, devait pouvoir, eh bien, là, se garantir en quelque sorte. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand on regarde un petit peu les faits de l'Antiquité, ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. On va en parler d'ici quelques instants. Cette disposition de protection était une volonté divine d'établir une justice équitable. Je crois qu'un chrétien doit avoir le sens de la justice. Ça s'apprend, ça aussi. Il y a une justice humaine, une justice selon la chair, si vous me permettez l'expression, mais il y a une justice de l'esprit. Et la justice de l'esprit, quelquefois, elle est vraiment différente de la conception que nous pouvons avoir de la justice à nous, la justice des hommes. Donc une justice équitable, autant que pour garantir la vie de ces innocents, surtout quand ces hommes avaient tué involontairement, que des circonstances malencontreuses ou fâcheuses avaient amené justement à commettre l'irréparable, parce que prendre la vie de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne se répare pas. Voilà, on peut dire cela comme cela. Alors, on revient un petit peu dans le contexte, pour le situer, dans le contexte de l'Antiquité. On sait que dans cette histoire ancienne des hommes, d'abord, les hommes faisaient peu de cas de la vie humaine. Remarquez, vous allez venir, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Quand il n'y a plus la justice et qu'il n'y a plus l'ordre, vous savez, les gens sont capables de faire n'importe quoi, on en entend parler. Que ce soit des exactions, des viols, des violences, enfin toutes sortes de choses. Et c'est abominable parce que c'est choquant. Naturellement, c'est choquant. Et nous voyons que dans toute l'histoire où l'homme sortait de la sauvagerie ou de l'animalité, le peuple de Dieu avait été mis à part parce qu'il avait reçu des lois justement par rapport à ça, pour garantir finalement le comportement dans la vie sociale. Et il fonctionnait, à travers de nombreux siècles avant nous, le redoutable système justicier de rendre le mal pour le mal. Quelquefois, on en a bien envie. Mais il y a quelque chose qui nous tient, quelque chose qui nous réfrène. Il y a la loi, il y a les gendarmes, il y a toutes sortes de choses. Et heureusement que ça existe, parce qu'imaginez-vous un peu comment ça pourrait être. Alors, rendre le mal pour le mal, soit la justice par la vengeance. Voilà, j'ai reçu tel préjudice, tel dommage, alors moi je vais me venger moi-même. Vous savez que c'est formellement interdit. Ah oui, c'est tout à fait logique. C'est comme ça. Et pour Israël, le peuple choisi, le peuple élu, Dieu voulait finalement faire passer un message que le droit soit administré également pour tous, sans distinction, en d'autres termes. Le coupable devait être puni et l'innocent reconnu comme tel et libéré. Si Dieu a fait cela, c'est que ça n'existait pas. Je crois que ce que nous sommes en train de méditer, ça vaut encore pour nous aujourd'hui. Parce que quand on connaît le fond du cœur des hommes, quand on connaît la violence qui existe, l'agressivité, eh bien, je pense que c'est encore quelque chose qui a sa raison d'être. Et Dieu voulait interdire tout règlement de compte. Parce que, compte tenu des sentiments qui peuvent survenir au moment d'un drame, d'une façon ou d'une autre, vous savez, il y a quelque chose dans l'homme qui est très spontané, c'est la colère. La colère, la haine, les mauvais sentiments, toutes sortes de choses semblables. Et nous voyons que Dieu avait mis les choses en place, et avec tout ce que cela entraîne de violence, parce que c'est une spirale qui va vers le bas. C'est-à-dire que je peux avoir commis du mal, il y a quelqu'un qui va se venger, et puis quelqu'un veut me venger après. Alors ça n'en finit pas. Ça s'appelle la guerre, tout simplement. Qu'elle soit larvée, qu'elle soit ouverte d'une manière ou d'une autre, parce que ça, c'est comme ça, tout simplement. Et Dieu, donc, a donné ces choses en raison de la haine dans les cœurs, en raison de la dégradation, nous pourrions dire, de la dignité humaine. Parce que quand un homme perd contrôle de lui-même, il perd quelque part de ce que Dieu lui a donné, de cette identité que Dieu a mis en lui, de ce caractère humain. Et c'est la place aux instincts. Autrefois, le devoir de punir revenait au chef de famille. On appelait ça les patriarches, chefs de clan, naturellement. Et la faiblesse du système d'alors était précisément qu'un parent de la victime, dont nous avons parlé tout à l'heure, aveuglé par le tort subi ou par la tristesse, pouvait aisément outrepasser ses droits et se venger à sa manière. Et quelquefois, ça allait beaucoup plus loin que ce qui était envisagé, parce que vous savez, derrière les sentiments mauvais des hommes, il y a toujours une main invisible qui exploite. Hein. Alors, c'est quelque chose de terrible. Et je prends un exemple, simplement pour figurer les choses. Si quelqu'un avait tué accidentellement, parce qu'il est question de tuer accidentellement, il était à la merci de ce que le texte nous a appelé le vengeur du sang. Voilà, le vengeur du sang qui était préposé, eh bien, finalement, à rendre la justice. Et il était délégué, quelque part, pour finalement, demander des comptes, tout simplement. Et le vengeur du sang tuait sans procès, tout simplement. Hein, il n'y avait pas d'instruction. Il y avait quelqu'un qui avait tué, on le poursuivait et on le mettait à la mort. Peut-être avec le sentiment que la famille victime disait, eh bien voilà, maintenant, il a été puni, c'est très bien comme ça. Alors, c'était terrible parce qu'il y avait deux victimes innocentes dans cette affaire. Il y avait celui qui avait été tué involontairement et celui qu'on allait punir parce que, avant d'avoir entendu sa cause. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui a donné, dans de nombreux pays, ce que nous connaissons, entre autres, dans nos pays méditerranéens, la vendetta. Voilà. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, quoique il y a encore des soubresauts, hein, mais c'est quelque chose d'assez horrible, ce genre de comportement humain, parce que c'est comme ça. Alors, afin de prévenir de tels abus, Dieu avait fait établir civil de refuge en Israël, où, dans le cas que nous avons évoqué, le fugitif, parce qu'il ne fallait pas qu'il reste là, hein, le fugitif pouvait s'enfuir pour sauver sa vie, jusque sa cause soit entendue, d'abord examinée et entendue. Il était protégé, il frappait à la porte de la ville, on lui ouvrait, il disait ce qu'il avait fait, et après on l'entendait. Et tout le temps, finalement, où le vengeur du sang était à sa recherche, il était à l'intérieur de la ville, il était protégé en quelque sorte. Et on n'avait pas le droit de rentrer pour le mettre à mort là où il était, tout simplement. Et ces villes étaient disposées de sorte, parce que c'est bien réfléchi dans ce que Dieu fait, elles étaient disposées de sorte qu'aucun endroit en Palestine ou en Israël n'en était très éloigné et, par surcroît, toutes les routes qui conduisaient à ces villes de refuge étaient parfaitement entretenues pour faciliter le salut de l'accusé, de celui qui était mis en cause. C'était un devoir. On devait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle sur ces routes. Alors, quand vous regardez, moi je vous ai lu les textes et puis les noms des villes, il y en avait à tous les coins en Israël. C'est-à-dire qu'elles étaient à égale distance d'un endroit ou un autre, de telle manière que celui qui se trouvait pris dans cette situation, choisissait la ville la plus proche, mais ce n'était pas très loin, quoi qu'il en soit, surtout qu'Israël n'est pas très, très vaste, quoi qu'il en soit. Et à ce moment-là, cet homme rentrait dans la ville de refuge et il expliquait ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, il restait le temps de la procédure et nul ne pouvait lui faire aucun mal. Il était en sécurité totale dans cet endroit-là, en sécurité totale. Alors, ça donne une idée, tout cela. J'ai voulu faire un petit peu d'histoire pour resituer un peu les choses parce qu'on se dit, tiens, c'est curieux dans la Bible, pourquoi ces dispositions de Dieu? Mais il y a des raisons. L'idée à retenir dans notre affaire, c'est celle de la protection du coupable, et en langage moderne, nous parlerions de prévenu. Hein, c'est ce que l'on dit. Voilà. En quelque sorte, c'est la protection de celui qui est, soupçonné coupable. Voilà, le prévenu. Et nous allons faire quelques analogies avec quelques vérités spirituelles. Parce que c'est le but, hein, c'est de nous transposer finalement. Eh bien, à travers ce que nous dit l'Évangile, ça c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Mais il y a également une dimension qui est éclairante pour chacun d'entre nous en fonction de ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons ressentir et de savoir que ces villes de refuge ont disparu. Hein, aujourd'hui, elles n'existent plus. Mais toujours est-il que, vous l'avez lu avec moi dans le livre des Hébreux, il nous est dit que nous avons et nous y trouvions un puissant encouragement dans quelques situations que ce soit dans notre existence, parce que c'est une encre de l'âme. Vous savez, celui qui rentrait dans cette ville, qui demandait asile, eh bien, il était en sécurité. C'était quelque chose où il ne bougeait plus. Hein, c'est vrai, mais il avait donc cette assurance qu'on ne viendrait pas lui faire de mal. Alors, tout cela, c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais qui nous propulse vers la notion de l'Évangile. Et nous voyons que Cette image que Jésus nous prend, que Josué nous prend, s'est substituée en moyen infiniment supérieur pour tout homme qui, en conscience, se sent coupable, se sent culpabilisé, où la justice par la condamnation a été remplacée par ce cœur de l'Évangile, cette notion, ce principe évangélique, par le pardon à une seule condition, c'est que nous fassions confiance. Voilà. Quand le vengeur du sang se mettait après un homme qui avait commis ce genre de choses, il savait qu'il y avait quelqu'un qui courait derrière lui. Et jour et nuit, c'était quelque chose d'horrible. À partir du moment où la nouvelle avait été déclarée, eh bien, le vengeur du sang, il attendait le moment favorable. Et il y a un principe qui est celui de la foi. Il fallait que celui qui se sente accusé, eh bien, croit d'abord qu'il y avait quelque chose pour lui, où il serait en sécurité. Donc, c'était une notion de foi. Et qu'une fois qu'il aurait expliqué, il pouvait obtenir le pardon. Et donc, il y a ces deux notions, la foi et le pardon, avec naturellement tout ce qui va avec. Le principe est simple, et je le rappelle. Tout coupable, tout accusé à tort ou à raison, d'abord doit reconnaître ses faits délictueux, s'il y en a, ou ses fautes, et à ce moment-là, dans un réflexe, parce qu'il le connaît, parce que nous le savons, nous avons une conscience, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal, de chercher asile et protection auprès de celui qui a déclaré, qui a fait cette parole dans l'Évangile, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors je dis cela à dessein, parce que nous sommes chrétiens, mais parfois nous sommes aussi avec toutes sortes de charges, toutes sortes de tourments intérieurs, toutes sortes de choses que nous avons du mal à négocier, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous est dit, quelqu'un qui nous dit encore aujourd'hui, et peut-être, je ne sais pas quelle était votre semaine, quels sont les faits de votre vie d'une manière ou d'une autre, mais de savoir, et je voudrais marquer la chose ce matin, c'est que Jésus nous dit bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours acquis, cela, dans notre fonctionnement chrétien. Parce que nous réagissons souvent avec un mécanisme ou un instinct, excusez-moi l'expression, mais de loi plus que de foi. Et ce qui fait que nous nous trouvons parfois dans un grand embarras, avec une perte de joie, avec une perte de paix, avec une asthénie même dans notre vie spirituelle, en disant « mais ma vision est beaucoup plus d'un Dieu qui punit que d'un Dieu qui fait grâce ». Et pourtant, dans l'Évangile, cette parole, et je la répète encore une fois, Jésus nous dit bien « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Nous avons cet exemple pathétique et ô combien qui nous enseigne, c'est celui du fils prodigue. Parce que si quelqu'un avait certainement quelque chose, et lui, c'était pas involontaire, c'était tout à fait déterminé et délibéré, et de pouvoir nous imprégner de cette notion. Mais ça, il faut y revenir, parce que c'est quelque chose d'important. Ou encore, ce que Jésus dira à la suite de quelques paraboles, parce qu'il le dira dans certaines circonstances, il dit ceci, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des coupables. » Et je pense que, mes frères et sœurs, si vous êtes à vous débattre à l'intérieur de vous-même, avec ce sentiment de culpabilité, cette auto-culpabilisation qui est à l'intérieur de vous-même, sachez que Jésus n'est pas venu chercher des saints, mais il est venu chercher des hommes et des femmes. Tout en ayant la conscience de notre misère, nous avons encore cette possibilité de venir à lui en sachant que c'est précisément pour nous qu'il nous parle, c'est à nous qu'il s'adresse ce matin et il veut nous faire certainement aller encore un petit peu plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est tellement viscéral chez l'homme. Il y a toujours un réflexe de loi. Alors que il y a bien d'autres choses. Les villes de refuge, notre refuge, l'encre de l'âme que nous savons et que nous connaissons, que nous allons développer d'ici quelques instants, elle existe. Alors, il ne s'agit pas de se réfugier entre les murs d'une ville, ou même de se réfugier dans les murs d'une église ou d'un temple, comme ça a été très souvent dans l'histoire, hein, ou devant peut-être les invasions. Alors les gens rentraient dans une église peut-être par superstition et c'était sacré, on n'y touchait pas. Hein, que quelquefois, lorsque les ennemis n'y mettaient pas le feu. Hein. Oradour-sur-Glane est quand même un exemple typique de sauvagerie et de bestialité humaine. Mais se réfugier dans la foi, et la foi, c'est la confiance. Et la foi, elle nous dit ceci. Dans le prophète Ésaïe, un texte que vous connaissez bien, ce sont des choses simples que je rappelle ce matin, mais sont-elles nécessaires? Au chapitre 15 et au verset 30, il est dit ceci. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Alors, pas de panique. Parce qu'il y a parfois toutes sortes de choses qui montent dans notre tête et qui nous amènent à faire le contraire et précisément nous enfoncer dans le marécage de notre marasme et de notre culpabilité. La confiance, ce qui suppose de venir finalement à ce Dieu qui est appelé le Dieu tout-puissant, seul capable de justifier tous les hommes, de justifier les enfants de Dieu, de nous justifier les uns et les autres, quelles que soient nos fautes. Je dis bien, quelles que soient nos erreurs et nos fautes. Coupable, je reviens, coupable volontaire ou accidentel, en raison de notre nature, en raison de ce que nous sommes finalement héritiers de quelque chose de très lourd à porter depuis le jardin d'Éden, puisqu'il n'y en a aucun qui s'exempte de ce dont nous parlons, alors tous les hommes sont condamnables. Oui, nous sommes condamnables, mais nous sommes aussi condamnés. Alors, je ne veux pas rester là-dessus, hein, parce que moi, j'envisage toujours les choses qui avancent et qui font du bien. Et je ne suis pas là pour répéter toujours les mêmes choses, dans le sens où il faut avancer. On n'est pas là pour reculer ou faire du stationnement, mais pour nous montrer encore quelques notions, puisque nous parlons de justice. Et on sait qu'en raison de cet état de l'espèce humaine, la sanction atteint finalement l'humanité dans les trois ordres, sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel, à tel point que Paul l'écrira pour bien marquer les esprits, qui ne sera pas le fer de lance de l'évangélisation, mais une prise de conscience pour l'évangélisation, car le salaire du péché, c'est tout simplement la mort. Je dis bien, ce n'est pas le fer de lance. C'est une prise de conscience pour amener les gens à réagir devant finalement l'état de notre humanité et de dire, eh bien, je soupire et j'ai besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un refuge, d'avoir une ancre dans mon âme. Et hier, Dieu avait donné comme moyen de grâce, vous voyez, la grâce existait déjà dans la loi. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il faut le lire avec des yeux de grâce, où nous voyons à chaque instant la faveur de Dieu. Et il y a un psaume, je ne sais plus lequel, il est dit, « Mais Dieu ne nous a pas punis selon sa miséricorde. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, on va faire ressortir le positif. On va faire ressortir ce qui fait vivre, ce qui nous amène à sortir quelquefois de nos sillons et de nos ornières en disant, « Mais Seigneur, c'est quelque chose de formidable. » Alors, il avait donné ce moyen de grâce à travers ces villes de refuge qui parlent encore et qui nous donne et qui nous suggère tout simplement un salut d'un ordre différent pour nous aujourd'hui qui vivons dans la Nouvelle Alliance. Croire en Jésus-Christ et l'accepter tout simplement au fond de notre cœur. Je voudrais dire simplement pour résumer cela, qu'hier, il fallait se sauver vers, et aujourd'hui, on est sauvé par. C'est la grande différence. Oui. Se sauver vers. On n'a pas besoin d'aller dans un endroit ou un autre. Mais aujourd'hui, par la foi, nous saisissons que c'est quelqu'un qui nous sauve. Donc, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre précipitation pour aller nous mettre à l'abri ceci, cela, mais on est sauvé par un fait. On est sauvé par une personne qui a accompli un fait que nous ne pouvions pas accomplir et nous sommes sauvés par Jésus, tout simplement. Alors, la Bible nous présente tout simplement Jésus comme le parfait défenseur. Oui, il y avait le vengeur du sang. Mais lui, c'est le contraire, il est l'avocat, selon l'épître de Jean. Et il dira ceci, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Quelle protection! Quelle paix et quel repos dans nos tourments peuvent parfois à l'intérieur de nous-mêmes, naturellement. La vocation première d'un avocat, vous le savez, c'est de plaider et c'est d'intercéder et c'est de défendre son client. C'est pas pour l'enfoncer, hein. Naturellement, sur les principes de justice, c'est vrai. Mais même le coupable, même le plus grand des coupables, a droit justement à cette défense. Alors Jésus lui dira lui-même, et nous l'avons vu vendredi soir, « Je suis la porte. » Oui. Porte de la ville, porte du refuge, mais il est néanmoins la porte. Et si nous rentrons par lui, ça c'est dans la parabole du bon berger, eh bien si quelqu'un entre par moi, qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous connaissez hein, le texte, hein. Eh bien il sera sauvé, il sera absous, il sera pardonné, il sera à franchir. Mais il faut franchir le porte de la ville de refuge, parce que ça nous assure la paix et la sécurité. Et lorsque nous avons passé ce cap dans notre vie spirituelle, de la loi à la foi, eh bien nous avons fait un grand pas. Combien nous voyons encore cette fébrilité dans la vie de certains chrétiens, de certains frères et sœurs, toujours sur le qui-vive, toujours avec un petit peu là, eh bien, savoir ce qui va leur arriver. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne, c'est une vie d'épanouissement, c'est une vie d'abondance, où nous pouvons relever la tête, non pas par nous-mêmes et pour notre propre gloire, mais de pouvoir manifester cette paix et cette sécurité, cette sérénité, on pourrait dire. Alors, pour poursuivre, ces six villes de refuge sont six aspects où celui qui se confie en Jésus est assuré de son entière protection devant une première chose, devant un premier ennemi, devant quelque chose que nous connaissons tous à un moment ou à un autre et que parfois nous entretenons et que nous avons en permanence en nous-mêmes, c'est la peur. Voilà. Nous prions. Avec mon épouse, nous prions pour les frères et les sœurs qui ont peur en permanence, dont la peur domine leur vie. Et il y en a parmi nous qui manquent d'affranchissement, qui sont là toujours sur le qui-vive, de faire mal, de faire quelque chose qui ne serait pas bien. Et je crois que nous avons justement cette défense, la peur, le refuge dans la crainte. La peur est un fruit empoisonné qui sort du jardin d'Éden. Le premier sentiment émotionnel qu'Adam a manifesté et qu'il dira « Où es-tu ?» et il répond « J'ai eu peur ». C'est difficile de se libérer de la peur. C'est quelque chose qui nous tient profondément. On a parfois des peurs incompréhensibles. Il n'y a pas de raison pour avoir peur, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui nous fragilise, qui nous met en, je ne sais pas, dans une... Et ça crée un malaise profond. Et je crois que cette ville, c'est une des villes de refuge, nous parle justement de cette peur. Et nos peurs sont aussi multiples que variées. Il y a des peurs anodines qui n'ont pas lieu d'être, mais il y a des peurs quelquefois qui sont redoutables. Il y a des peurs que nous nous imaginons, enfin il y a des faits que nous nous imaginons et qui nous font peur, naturellement. Et devant le sentiment émotionnel de la peur, l'on cherche toujours un refuge, à se garantir, à se protéger, à s'excuser, à trouver finalement toutes sortes de prétextes, quelque part ou en quelque chose. Et la meilleure garantie qui nous est offerte et qui apaise notre cœur reste Jésus et sa parole. Et ça, est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous entendons ce qu'il nous dit à un moment donné où Jésus va évoquer sa mort devant ses disciples? Et la mort, ça fait peur. Et ça faisait peur à ses disciples. Et vous savez ce qu'il dira dans Jean, chapitre 14, verset 1er, une parole extraordinaire, formidable, dont nous avons besoin de nous souvenir de temps en temps. Il est dit, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont des choses très simples. Mais est-ce que nous nous en souvenons? Est-ce que nous nous en souvenons? L'antidote, c'est la foi. Tout simplement, là où la foi existe réellement, eh bien, elle apporte toujours le calme, la tranquillité intérieure et quelque chose qui nous devons apprendre et qui est un signe de notre maturité spirituelle, c'est la maîtrise de nous-mêmes. Dans la peur, nous faisons des bêtises. Dans la peur, nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. Dans la peur, nous pratiquons et nous avons des réactions qui sont quelquefois, eh bien, parfois même condamnables. Nos sentiments, nos émotions, nos pensées. Ça, trouver en Jésus devant nos peurs, cette ville de refuge. Jésus est notre refuge. Il est une ancre de l'âme. Et quels que soient les vents, quels que soient les cyclones qui peuvent passer sur notre existence, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a cette ancre à l'intérieur de nous-mêmes et qui va faire en sorte que nous n'allons pas bouger. Ça, c'est la première chose. La deuxième ville de refuge évoque la personne de Christ qui est le refuge devant ce que nous connaissons à un moment ou un autre de notre vie, c'est la maladie. Ouais. La peur, la maladie, les souffrances, qu'elles soient physiques et encore peut-être beaucoup plus grandes puisqu'elles sont liées à notre première proposition, la peur, la maladie psychologique, vous savez, la fragilisation de notre vie morale, et ça c'est terrible, et c'est inhérent à la vie humaine sur la terre. Dans leur douleur, les hommes cherchent désespérément un refuge. Est-ce que vous avez croisé le regard d'un angoissé ou de quelqu'un qui est dans l'anxiété? C'est terrible. Son regard est dans le vide. Il cherche désespérément quelque chose où il peut trouver un refuge. C'est affreux, hein? Et c'est difficile à aider parce que quand on n'est pas dans la condition, on ne peut pas comprendre. Mais c'est terrible parce qu'il y a tout un message qui transparaît à ce moment-là lorsque voyons eh bien, son regard qui s'évade, qui cherche quelque chose. Oui, quand il est dit à un moment donné de ne pas tourner des regards inquiets. Hein. C'est difficile, mais c'est pourtant une réalité. Alors, c'est vrai que c'est une forme de désespoir tout cela. Et du temps de Jésus, on s'aperçoit que ses contemporains venaient en foule vers lui. Ils venaient vers lui pour y chercher justement précisément cette guérison, cette ancre de l'âme. Et l'unique espoir de tous ces espérés nous est marqué à travers l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, je ne restitue pas le texte, mais il nous est dit que les hommes venaient en foule. Et Jésus guérissait. Jésus manifestait sa compassion. Parce que dans l'acte de guérir, il y a toujours un acte de Dieu que l'on appelle la compassion. Compatir avec, souffrir avec. Et je crois que Jésus est encore le même aujourd'hui. Et nous avons besoin de vraiment nous stabiliser dans ce domaine, que quelle que soit la maladie, quels que soient nos états d'âme ou nos états intérieurs, eh bien le Seigneur est un refuge. Et il faut le comprendre, il guérit encore. Troisième point rapidement, c'est que le Christ est un refuge également devant toutes les détresses de l'existence, que les appels danger, la solitude, les abandons, la déception et tous les autres drames que notre société, que toutes les sociétés certainement ont connu et que nous allons connaître encore. Alors, il y en a un qui tient ses promesses. Un seul. Nous, nous pouvons toujours faire des promesses ou des encouragements, mais ça ne vaut que la parole humaine. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Jésus, c'est tout à fait différent, parce que non seulement il nous parle, mais il est capable de les accomplir. C'est ça la grande différence. Parce que lui, il connaît tout notre fonctionnement, il connaît les tréfonds de notre âme et tout ce que nous pouvons vivre. Et les épreuves de la vie sont fréquemment ressenties comme un fardeau écrasant dont on est seul à porter le poids. Et c'est vrai. Dans la parole, il nous est dit que chacun portera son propre fardeau. C'est vrai que pour comprendre, pour pénétrer dans la compréhension de la souffrance d'autrui, eh bien, c'est pas toujours évident. Il faut véritablement que Dieu nous en donne la compréhension dans le ressenti par le Saint-Esprit. Ça, c'est certain. Et si vous voulez un psaume, si vous voulez un psaume qui nous parle justement de toutes les détresses, puisqu'il a été appelé le psaume des détresses, vous lisez le psaume 107. Et vous avez toutes les phases de la détresse humaine, avec à chaque fois, tout simplement, et Dieu les délivra de leurs angoisses. Et à chaque fois, c'est répété, pour nous montrer que la clé, elle est là. Écoutez Jésus nous dire ces paroles. Je ne vous laisserai pas orphelin. Peut-être quelqu'un a pensé cette semaine qu'il était tout seul. Peut-être quelqu'un a pensé que c'en était fini, il n'y avait plus de solution pour vous. Eh bien écoutez, Jésus nous dit, nous rappelle, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous. Et peut-être que c'est à travers ce message tout simple ce matin que le Seigneur vient vers nous, pour que nous l'entendions tout à nouveau. Et si nous le ressentons, si nous le percevons plutôt, eh bien il ajoute ceci, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne parce qu'elle est fugace, elle est futile, elle est tout simplement superficielle, mais que votre cœur ne se trouble point, il nous le rappelle, qu'il ne s'alarme point et pour nous dire, eh bien, tout simplement, je suis là. Quoi qu'il en soit, je suis là. Même les amis les plus fidèles, cela s'est oublié. Et c'est vrai qu'on l'a connu tous à un moment ou un autre dans notre vie. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui demeure le même, c'est toujours Jésus. Quatrième aspect des choses, c'est que Jésus-Christ est un refuge devant le péché, le mal, la corruption, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle des autres. Ce peut être finalement nos tentations. Ce peut être la méchanceté aussi des autres, d'autrui. Ce peut être, d'une manière générale, l'effroyable corruption du monde. Et nous sommes dedans. Et quelquefois, lorsque nous voyons un petit peu les choses, nous les regardons, vous savez que nous sommes quand même pas mal protégés, nous les chrétiens. Enfin, vous êtes dans le monde, vous travaillez, vous êtes dans les entreprises, dans les sociétés, etc. Vous avez quand même une... Mais la vie n'est pas toujours facile. Alors, elle n'est pas facile pour les adultes et je pense aussi par rapport à la jeunesse. Et quelquefois, lorsque nous entendons certaines choses, c'est à vous donner le tournis, de voir comment les gens pensent les choses et comment ils sont capables de les vivre et de détourner finalement, toute chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lutte du bien et du mal, elle est quotidienne, quoi qu'il en soit. C'est tous les jours que nous avons à faire face à cela. Alors, elle est en nous, elle est autour de nous. Et la seule délivrance possible pour ceux qui aiment la vérité, parce que c'est ça la question, tout repose sur cette notion, celui qui aime la justice, qui aime la pureté, c'est tout simplement de laisser Jésus régner dans notre vie. De laisser sa parole nous imprégner, parce que je voudrais vous dire quelque chose, enfin, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, mais ce n'est pas parce que nous lisons tous les jours la parole que nous nous astreignons à lire la parole de Dieu tous les jours, parce que vous en faites un devoir. Ce n'est pas parce que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas de la lire parce qu'on a dit qu'il fallait la lire. Ce n'est pas parce que vous vous êtes fait une règle, quelquefois même rentrer dans une forme de carcan. Ce n'est pas ça ce qui compte. C'est que lorsque vous la lisez, vous la prenez, vous l'assimilez et vous la vivez. Parce que si vous sortez d'une lecture de la Bible en vous disant, voilà, j'ai lu, parce que vous savez, il y a des petits calendriers qui vous disent, voilà, tous les jours de l'année, etc., etc., et que vous sortez avec une bonne conscience en disant, j'ai lu, maintenant je suis quitte. C'est pas ça, la vie chrétienne. Là, on est encore dans l'Ancien Testament, on est encore dans la loi. C'est de prendre peut-être qu'une seule parole et de l'appliquer à votre journée, à votre vie, dans l'heure que vous vivez, et de la vivre à chaque instant. Parce qu'on n'est pas quitte en se donnant des devoirs. On n'est pas quitte en se donnant des règles. Au début de notre conversion, je pense pour moi-même, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, j'ai connu cela. Mais oui, avec des heures bien réglées, avec tout un cadre, c'était bien et je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire. Je ne renie pas ce moment-là, mais je me suis aperçu qu'à un moment donné, on arrive au bout du bout. Et que quelque part, ça ne donne plus rien. Il faut rentrer dans une nouvelle dimension. Il faut aller plus loin que la lecture. Il faut aller plus loin que cette obligation que l'on se donne. Parce que ça ne fait pas vivre cela, mes frères et sœurs. Il faut qu'il y ait une autre dimension. Et là, nous allons passer à un moment ou à un autre de la lettre à l'esprit. Et ça, c'est merveilleux. Je vais vous dire que c'est le jour et la nuit. C'est le soleil qui se lève après le brouillard. Et c'est véritablement la paix et l'épanouissement. Alors je sais qu'il y a toutes sortes de théories pastorales ou autrement, de prédications, toutes sortes de choses. Je ne veux pas dire que ce n'est pas ça, mais je veux dire qu'il faut aller plus loin que cela. Tout dépend de la motivation. Est-ce que l'on fait des choses? Il faut que lorsque nous mangeons, nous nous nourrissions. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque ça nous profite, et ça se voit tout de suite, si la vie est épanouie, si elle est abondante, si elle est pleine de ressources et qu'elle devienne une source de bénédiction pour les autres. Ou alors, elle me recroqueville sur moi-même en disant, j'ai pas eu le temps de lire la parole ce matin, mais je suis perdu. Mais mes frères, c'est pas parce que vous lisez pas la parole que vous êtes perdu. Excusez-moi. Je l'ai pensé, mais je le pense plus. Je l'ai cru, je ne crois plus. Vous allez peut-être pas me revoir, Souplesse, conduite de la vie de l'esprit. Mais c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Jésus est un refuge. Il n'est pas là avec, vous savez, une matraque dans le dos en disant « Tiens, tu sais, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ceci, tu m'as fait cela. » Ce n'est pas la vie chrétienne, ça, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est de pouvoir faire comme Ézéchiel a été conduit dans le torrent, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'aux reins. Et à un moment donné, il a été porté dans la grâce. Il nageait. Mes frères et sœurs, on est appelés à nager. On est appelés à se laisser porter complètement et totalement. C'est laisser Jésus régner, sa parole, son esprit dans nos vies. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. Et ça, ça fait quand même une grande différence. La force pleinement suffisante pour lutter avec succès contre le mal, parce qu'il est viscéral, il est en nous, il est à l'extérieur de nous. Mais, pas tant de combattre nous-mêmes, mais de nous livrer nous-mêmes. Vous savez, je l'ai dit, et je prends toujours cette image, vous l'avez entendue et vous allez l'entendre encore ce matin, par rapport à la corruption qui existe, ici et ailleurs, c'est vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Ouais, vous savez ce que ça fait? C'est pas conseillé, hein, parce qu'il nous reste plus un cheveu sur la tête après. Livrer notre corps, notre âme et notre esprit à Jésus, puisqu'il a été tenté en toutes choses. Vous croyez qu'il ne nous comprend pas? Il sait par où on passe. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos défaillances, comme on le chante. Il connaît nos effondrements. Mais bien sûr qu'il les connaît. Je vous le rappelle, il n'est pas venu chercher des saints. Il est venu chercher des pécheurs, tout simplement, de ceux qui sont perdus. Et d'en faire notre refuge. Oui, d'en faire notre refuge. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si moi, je vais m'affranchir, je me mets encore des chaînes. Ça ne sera peut-être pas les mêmes chaînes, mais elles seront encore plus ténues que les premières. C'est une question de compréhension. Laissez toute la place, parce que sa force devient notre force. Cinquième et avant-dernière image de la ville de refuge. Jésus est un refuge contre l'ennemi héréditaire de l'espèce. Vous avez deviné qui, hein ? L'espèce humaine. L'ennemi sournois, invisible, un être pensant et intelligent qui a des longueurs d'avance sur nous. Vous comprenez? Son nom veut dire ce qu'il veut dire. Satan, ça veut dire adversaire. L'accusateur, oui, l'accusateur. Il nous est dit dans l'Apocalypse qu'il est l'accusateur des frères. C'est lui qui tourmente la conscience. C'est lui qui nous ramène notre passé. C'est lui qui refait, eh bien là, finalement, nous fait faire marche arrière et qui fait comme, et qui s'évertue à faire comme les Hébreux, les faire tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui tournent en rond. Et nous ne sommes pas appelés à tourner en rond, nous sommes appelés à passer le Jourdain pour rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ça la grande différence. Mais il faut en prendre conscience. Et vous savez pourquoi les Hébreux tournaient en rond? Parce qu'ils ne croyaient pas, tout simplement. Et Dieu pourrait nous dire, mais tu as tout, tu as la parole, tu as mon esprit, tu as tout ce qu'il faut, mais pourquoi continues-tu à tourner en rond? Regarde le chemin, la porte pour rentrer dans une autre dimension. Ouais. Vous savez, les épreuves et les difficultés, c'est ce que dit le psaume 84 ou 86, je ne me souviens pas, mais vous le retercherez si vous voulez. Il nous est dit que Dieu nous a fait passer par le feu et par l'eau, par le feu. Il a fait monter des hommes sur notre tête. Il nous a fait passer par toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, il nous a fait passer par tout cela, mais il nous en a retiré pour nous donner l'abondance. Merci Seigneur, parce qu'à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers toutes ces choses-là, moi je vais voir qu'il y a une porte de sortie. Il y a un chemin lumineux, il y a une porte d'espérance, comme nous dit le prophète Osée. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin de nous souvenir, parce que nous avons un ennemi. Et lui, il nous guette. Il nous guette de mille manières. Il se manifeste de toutes sortes de façons. Et son emprise sur l'existence des hommes est terrible. Mais est-ce qu'il a encore une place pour nous dans notre vie? Est-ce que nous lui appartenons, oui ou non? Nous n'appartenons plus à l'adversaire. Nous appartenons à Jésus. Nous l'avons confessé. Nous avons fait une profession de foi. Alors pourquoi nous nous laissons encore beaucoup plus inclinés à croire au mensonge, à son mensonge, que de croire à la vérité? Seigneur, délivre-nous de tout cela. Et Jésus l'a bien mis dans cette prière universelle. Délivre-nous du malin. frères et sœurs, fermez vos oreilles à toutes ces suggestions. On arrête avec tout ça. Il faut aller plus loin. Parce qu'il va nous parler, il va prendre un peu notre langage, il va prendre un peu notre manière. Vous savez, il ne va pas venir d'une manière grossière. Il va prendre un peu les formes de notre âme, de nos aspirations, de toutes sortes de choses qui nous ressemblent tellement. Et on va dire, mais c'est moi. Alors que ce n'est pas nous, c'est lui. Hein. Et il va nous faire prendre, finalement, eh bien, le mensonge pour la vérité. Il va nous induire complètement et totalement en erreur. Rentrez dans cette ville de refuge et il ne pourra pas vous attaquer. Quelle protection ! Quelle protection ! Et je termine. Dernière chose, c'est que Jésus est un refuge contre la reine des épouvantes, la mort. Si je vous pose la question à froid, est-ce que vous avez peur de mourir ? Je comprendrais que vous me disiez oui, parce que la mort reste toujours quelque chose. C'est vrai, dans la séparation, et puis dans ce qu'il y a d'aspect tellement sale, poussière. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'au fond de notre cœur, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Ouais. Parce que nous savons où nous allons, à la grande différence de ceux qui n'ont pas d'espérance. Et puis nous avons quelque chose qui est extraordinaire, qui est au cœur même de la prédication de l'Évangile, c'est la résurrection de Jésus. C'est le principe même de la résurrection de Jésus. Alors ça, c'est un refuge. Et il y a eu un avant et un après avec notre conversion. Nous avions peur de mourir auparavant. Mais maintenant, c'est différent. Il y a naturellement quelque chose d'autre. Oui, je comprends qu'il y a la peur de souffrir pour mourir. Mais la peur de mourir, non. Et c'est un refuge, justement, contre ce que j'ai appelé tout à l'heure la reine des épouvantes, et tout vrai croyant qui a placé sa foi en Jésus, s'est assise en Jésus, n'a plus peur de la mort parce que son espérance est fondée sur un monde, excusez-moi, hein, mais je le dis, de félicité éternelle. Ouais, rien de comparable avec eux, finalement, ce que nous connaissons et ce que nous savons. Oui, c'est le bonheur. Qu'est-ce que veut dire le mot bonheur ? Qu'est-ce que veut dire le mot gloire ? Eh bien, je ne peux pas vous en répondre aujourd'hui, mais on le partagera ensemble. Et là, on saura ce que ça veut dire. Et quand on regardera d'en haut vers le bas, on dira, mais merci Seigneur de m'avoir appelé, de m'avoir sauvé. Et merci de m'avoir donné la capacité et la force de croire que finalement c'était pour moi et d'y avoir répondu. Ouais, parce que le meilleur est encore à venir, hein, certainement. Cette ultime parole de Jésus à Marthe et à Marie, « Celui qui croira en moi vivra quand même, il serait mort. » C'est une folie. C'est quelque chose d'incompréhensible pour tout autre qu'un chrétien. Mais celui qui croit en moi, celui qui croit, celui qui vit et croit en moi, eh bien, vivra quand même, il serait mort. Dans une autre dimension. Dans ce que Dieu a préparé. Alors, les villes de refuge, à travers l'Ancien Testament, ce que Jésus nous présente. Et je vais conclure, c'est encore du grand classique, mais écoutez, ville de refuge, ce que nous dit David, à travers le psaume le plus connu. Je fais simplement la lecture sans commentaire, parce que je ne vais pas repartir. Hein. Écoutez, l'Éternel est mon berger. On va prendre le temps. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma haute retraite. Il est mon asile protecteur. Je ne manquerai de rien. Vous le savez, ça. Je le sais. Mais Seigneur, donne-moi ta grâce de pouvoir le garder dans mon cœur. Il me fait reposer. La notion de repos est là, dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien puisque j'ai tout à profusion. Il y a l'abondance auprès de toi. Il me dirige près des eaux paisibles. Ma faim et ma soif, celle de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, eh bien, est comblée parce que tu me conduis près de ces eaux. Et je peux me désaltérer. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Tiens, précisément, ce n'est pas la mienne, mais c'est la sienne. De la justice, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors, finalement, je peux me le dire et me le rappeler, mais je ne crains aucun mal. Et c'est vraiment pas très agréable de marcher dans l'obscurité, sans lumière. Et pourtant Jésus nous dit qu'il est lui, celui qui nous précède, parce qu'il est lui-même la lumière. Il n'y aurait qu'une lueur, et je le dis pour tous ceux qui traversent des épreuves, il n'y a peut-être plus qu'une lueur dans un problème ou une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Mais cette lueur, eh bien, accrochez-vous à cela, parce que finalement, elle va vous conduire vers la délivrance, vers le secours de Dieu. Quoi qu'il en soit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton, non pas pour me taper dessus, hein, parce que ça n'a jamais été fait pour ça. Ce n'est pas du tout la notion. Eh bien, tu me rassures, un bâton qui rassure. Moi, quand je vois un bâton, je me sauve. Ouais. Mais là, ça me rassure. C'est toujours la compréhension des choses, parce que les principes du royaume de Dieu sont à l'inverse de nos principes, à nous, les hommes, naturellement. Alors tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis, ils sont nombreux, ils sont redoutables, ils sont vociférants contre moi, mais je peux les regarder en face, parce que finalement, tu es là. Alors tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Je ne manquerai de rien, on l'a vu tout à l'heure. Et je peux dire, et je peux le chanter, je peux le déclamer sur tous les tons. Alors, à ce moment-là, oui, le bonheur. Ah oui, j'attendais que vous me le disiez. Hein. Oui, le bonheur, ben, vous ne le connaissez pas, le psaume 23. Hein. Alors, bon, voilà, je vais vous aider. Le bonheur et la grâce. Hein, voilà, voilà. C'est vrai que la nuit était courte. Hein. Le bonheur et la grâce, les deux notions dont nous avons parlé dans la ville de refuge, le bonheur et la grâce m'accompagneront alors un petit temps, quelque temps, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et quand mes jours finiront, je retrouverai celui qui m'a conduit, celui qui m'a inspiré, celui qui m'a rassuré, celui qui m'a consolé, celui qui m'a exhorté, celui qui a tout fait pour moi. Celui qui m'a guéri, celui qui me sauve, je le retrouverai dans ses palais éternels. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Parce que ce ne sera pas une ville de refuge, ça sera les palais glorieux, célestes, dans lesquels Jésus me dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et il y a une place pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci pour ces villes de refuge, parce qu'elles sont une image. Et Seigneur, c'est une projection, Seigneur, de ce que, en effet, Père éternel, tu nous as préparé à travers la personne de Jésus, qui est pour chacun d'entre nous une encre de l'âme. Oui, Seigneur, je veux faire, Jésus, eh bien, l'encre de mon âme. Oui, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu leur fais du bien, tu les réjouis, Seigneur, parce que nous avons de l'espérance en toi. Alors nous pouvons dire, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu bénis, Seigneur. Et tu nous accompagnes dans le vécu maintenant de ce que nous avons entendu. Merci Seigneur. Amen.